VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour ou bonsoir, Idrissa Seloulia et Morgane Guiriec au micro. Édition du jeudi 2 avril 2015. À la une ce soir, Morgane.
Le nucléaire iranien, bonne nouvelle, a affirmé Federica Mogherini. Solution trouvée. Prêt à commencer immédiatement la rédaction du texte de l'accord final, a répondu M. Zarif dans un tweet sur les négociations nucléaires.
Attaque d'Al-Shabaab au Kenya, les djihadistes somaliens ont pris d'assaut l'université de Garissa. On compte au moins 70 morts.
Journée ville morte en Guinée, l'appel de l'opposition a été partiellement suivi.
Naturellement, quand on décrète une journée de ville morte dans un pays comme la Guinée où le revenu est très faible, où les gens vivent dans des difficultés les plus monstres, on ne peut pas s'attendre à ce que tout le monde reste à la maison.
Au Yémen, les rebelles houthis ont pris d'assaut le palais présidentiel à Aden.
En Égypte, au moins 5 soldats ont été tués dans 2 attaques dans le nord du Sinaï où l'armée combat une branche locale du groupe État islamique. Au Kenya, prise d'otages des Shababs somaliens dans l'université de Garissa. Au moins 70 personnes, essentiellement des étudiants, ont été tuées et 79 blessées selon un bilan provisoire donné par le ministre kényan de l'Intérieur. Il a aussi annoncé une opération de nettoyage final en cours. On fait le point avec Bagassi Koura.
Selon le ministre de l'Intérieur, Joseph Nkaiseri, environ 500 étudiants sont recensés vivants, 4 terroristes ont été tués et 90% de la menace éliminée. Selon l'AFP, il n'a pas indiqué si d'éventuels assaillants étaient toujours à l'intérieur. L'attaque a été lancée ce matin à l'aube par les islamistes somaliens Shabab contre l'université de Garissa dans l'est du Kenya, à la frontière somalienne. Selon les autorités, 2 agents de sécurité ont été abattus dans cette attaque qui a été précédée d'une explosion. La Croix-Rouge fait état d'un nombre indéterminé d'étudiants otages sur le campus. Selon l'AFP, les Shabab affirment que le commando a laissé partir les musulmans et a gardé les autres en otage. Dans un discours, le président Uhuru Kenyatta a présenté ses condoléances aux familles des victimes.
Nous continuons à prier pour le prompt rétablissement des blessés et le sauvetage en toute sécurité de ceux en otage encore détenus.
Le président a également annoncé qu'il allait accélérer la formation de 10 000 policiers supplémentaires, affirmant que le pays a souffert inutilement en raison de la pénurie de personnel de sécurité.
En Guinée, l'opposition a appelé à observer une journée ville morte aujourd'hui à Conakry. Cette initiative visant à protester contre le calendrier électoral a été partiellement suivie, nous dit Timothée Donangmaï.
L'appel à cette journée Conakry ville morte a été relativement respecté dans la capitale guinéenne. Selon notre correspondant, les boutiques n'ont pas ouvert sur le grand marché de Madina et la circulation a été interrompue plusieurs heures sur un des principaux axes routiers de la ville. Toutefois, les employés se sont rendus au travail dans le secteur privé, les banques et l'administration. Aucun incident n'a été reporté. L'ancien premier ministre Sidya Touré de l'Union des forces républicaines, UFR, un des dirigeants de l'opposition, a estimé qu'une bonne partie des militants de l'opposition avait suivi sa consigne. Il a indiqué à l'AFP que l'opposition allait appeler à de nouvelles manifestations. Pour rappel, l'opposition conteste le calendrier des prochains scrutins annoncés le mois dernier par la Commission électorale nationale indépendante avec la présidentielle en octobre prochain et des élections locales en mars 2016. Les opposants réclament l'inversion de ce programme avec l'organisation des locales avant la présidentielle se fondant sur des accords signés en juillet 2014 avec le gouvernement.
Au Mali, des casques bleus reconnus responsables de la mort de 3 manifestants tués par balle fin janvier dans le nord du Mali. C'est ce qu'indique un porte-parole de l'ONU cité par l'AFP. L'enquête a conclu que des membres de l'unité de police de la MINUSMA, la mission de l'ONU au Mali, avaient fait un usage excessif et non autorisé de leurs forces pendant la manifestation, provoquant la mort par arme à feu de 3 manifestants et blessant 4 autres personnes.
Tension à Ouagadougou entre le Premier ministre et les grévistes. Isaac Zida a accusé ces derniers de vouloir instaurer un climat d'anarchie au Burkina Faso avant l'élection présidentielle d'octobre prochain. Le gouvernement assure la transition jusqu'aux élections. Il s'opposera désormais avec fermeté et responsabilité à toute tentative de déstabilisation, d'où qu'elle vienne, a averti M. Zida dans une déclaration radio-télévisée.
Du nouveau dans l'affaire Hissène Habré au Sénégal, un magistrat burkinabé a été choisi pour présider la cour d'assises spéciale de Dakar, devant juger l'ancien président tchadien. C'est ce qu'indique l'agence de presse sénégalaise. L'Union africaine avait lancé un appel à candidature et par souci d'impartialité, les magistrats sénégalais et tchadiens n'avaient pas été autorisés à postuler. Rappelons qu'Hissène Habré, en exil au Sénégal depuis le renversement de son régime en 90, est accusé de milliers d'assassinats.
Au Nigeria, le couvre-feu imposé dans l'état de Rivers a été levé. La mesure avait été prise la semaine dernière dans cette région pétrolifère du sud du pays, suite aux troubles liés aux élections présidentielles et législatives.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonne nouvelle sur les négociations sur le nucléaire iranien, a tweeté mardi la chef de la diplomatie de l'Union européenne. Alors que le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif, a parlé de solutions trouvées dans un autre tweet. Bonne nouvelle, a affirmé Federica Mogherini, solutions trouvées. Prêt à commencer immédiatement la rédaction du texte de l'accord final, a répondu M. Zarif dans un tweet sur les négociations nucléaires à Lausanne. Il y a une entente sur les points clés en vue d'un accord final, a déclaré pour sa part dans un tweet le ministre allemand des Affaires étrangères, Frank-Walter Steinmeier. En Égypte, au moins 5 soldats ont été tués par ailleurs dans 2 attaques dans le nord du Sinaï, où l'armée combat une branche locale du groupe État islamique, a annoncé la police. Les soldats ont été pris pour cible par les militants, terme utilisé par les autorités pour désigner les insurgés djihadistes qui ont attaqué à l'arme automatique et au lance-roquettes 2 postes de contrôle routier, l'un à Sheikh Zouaid, l'autre à Rafah, le point de passage entre l'Égypte et la bande de Gaza, ont indiqué à l'AFP des responsables locaux.
Les rebelles chiites houthis au Yémen et leurs alliés ont pris d'assaut ce jeudi le palais présidentiel à Aden, dernier symbole de l'État, infligeant un revers à l'Arabie saoudite engagée depuis 8 jours dans des frappes aériennes contre ses miliciens soutenus par l'Iran. Jacques Aristide.
Même après cette déconvenue, Riyad a juré de défaire les insurgés houthis qui contrôlent déjà la capitale, la Sana'a, et plusieurs régions du Yémen. L'AFP rapporte qu'au moins 44 personnes, dont 18 civils, ont été tuées dans ces violents combats entre les rebelles et les forces favorables au président Abd Rabbo Mansour Hadi, qui a quitté Aden fin mars. Profitant du chaos sur pratiquement tout le territoire du Yémen, AKPA, Al-Qaïda dans la péninsule arabique, a pris d'assaut ce jeudi même la prison centrale de Moukalla, près d'Aden, et a libéré plus de 300 détenus, dont un de ses chefs, Khaled Batarfi. Ce jeudi encore, un garde à frontière saoudien a été tué et 10 autres blessés par des tirs nourris depuis une zone montagneuse du Yémen, selon l'agence de presse gouvernementale saoudienne. L'Arabie saoudite sunnite qui dit vouloir mettre un terme à l'influence de l'Iran chiite auquel sont liés les Houthis.
En Irak, les artificiers ont désamorcé aujourd'hui des bombes et autres engins explosifs posés sur les routes de Tikrit, 24 heures après que Bagdad a annoncé la libération de cette ville stratégique occupée en juin dernier par le groupe État islamique. Hier, le Pentagone a dit que les Irakiens contrôlaient le centre de la ville et le principal QG du gouvernement, mais qu'ils se heurtaient encore à des poches de résistance de la part de centaines de djihadistes. Des témoins signalaient des tireurs embusqués sur les toits et les autorités militaires disent que les militants ont laissé des pièges dans les bâtiments de Tikrit.
En Afghanistan, au moins 17 personnes ont été tuées et 50 blessées aujourd'hui par un kamikaze dans la province orientale de Khost. Un porte-parole du gouverneur local a dit à la Voix de l'Amérique que cet attentat suicide a eu lieu lors d'un rassemblement organisé contre les prétendues pratiques corrompues du gouvernement provincial. Quant aux talibans, un de leurs porte-parole dément leur implication dans cette explosion.
Et ici, aux États-Unis, les législateurs de l'Indiana ont décidé d'amender la loi qu'ils ont approuvée récemment sur la liberté religieuse pour s'assurer que les entreprises ne pourront pas l'utiliser pour faire de la discrimination contre leurs clients homosexuels. L'Indiana et son gouverneur conservateur, le républicain Mike Pence, ont provoqué un tollé à travers le pays après l'approbation de la loi en question.
Oui, il faut dire que cette loi pour la restauration de la liberté de religion avait été promulguée dans cet État et inspirée de textes adoptés dans 19 autres États. Et il contenait, ou elle contenait cette loi, un article permettant en particulier à une entreprise d'invoquer une entrave substantielle à sa liberté de religion pour sa défense dans un procès. Et ce qui a soulevé un tollé dans le pays est le résultat que vous venez de signaler. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco ce soir avec Jean-Roger Bion.
Après avoir commencé la semaine sous la pression du dollar, l'or a repassé le seuil des 1200 dollars à l'once, soutenu par le ralentissement des créations d'emplois dans le secteur privé aux États-Unis en mars, mais pourrait se retrouver sous pression à nouveau vendredi, jour de la sortie du rapport américain sur l'emploi et le chômage. Le marché sera en effet particulièrement attentif à l'évolution des salaires, l'un des principaux éléments sur lesquels la Réserve fédérale américaine dit fonder ses décisions pour le relèvement de ses taux d'intérêt. Une hausse de ses taux actuellement presque nulle rendrait le dollar plus rémunérateur et pèserait ainsi sur l'or. L'Organisation mondiale du commerce, OMC, va célébrer son 20e anniversaire le 8 et 9 avril prochain à Marrakech, la ville où ont été conclus ces accords instituant la plus haute instance dirigeante du commerce mondial. L'événement mettra à l'honneur le continent africain, ses perspectives et sa place dans le système commercial multilatéral, tout en faisant valoir le rôle leader du Maroc en matière de négociation et d'appui à la facilitation des échanges commerciaux. Et le port autonome d'Abidjan œuvre pour la fluidité dans le transport des marchandises. Au cours d'un atelier, les différents partenaires ont décidé d'œuvrer pour une réduction du temps de séjour des marchandises sur l'axe Abidjan-Noué, véritable corridor vers les autres pays de la sous-région ouest africaine. Le directeur général adjoint du port autonome d'Abidjan, Ngbala Etienne, a exprimé l'engagement de la communauté portuaire pour le repositionner durablement parmi les ports les plus compétitifs du continent.
Voilà, c'était la Minute Éco avec Jean-Roger Bion.
Les sports avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas. Le Maroc participera bien aux éliminatoires de la CAN 2017.
Oui, le tribunal arbitral du sport a annulé ce jeudi les sanctions sportives prises par la Confédération africaine de football contre le Maroc, qui avait refusé d'organiser la CAN 2015 en raison de l'épidémie d'Ebola. Le Maroc avait été suspendu, souvenez-vous, des CAN 2017 et 2019. Eh bien, le TAS a décidé d'annuler cette décision. Le TAS a également annulé les lourdes sanctions financières infligées à la fédération marocaine. La Fédération royale marocaine de football avait été condamnée par la CAF à verser près de 9 millions d'euros au titre des réparations et préjudices.
Autre affaire de gros sous au Comité international olympique qui fait preuve de transparence.
Pour la première fois, conformément aux promesses de l'agenda 2020, le Comité international olympique a publié le montant des indemnités qu'il va verser à ses membres et à son président Thomas Bach, qui recevra 225 000 euros par an. Le CIO va verser à chacun de ses quelques 115 membres une indemnité journalière de 450 dollars quand il siège et une indemnité annuelle de 7 000 dollars pour couvrir les frais administratifs.
Pour terminer, quelques résultats du championnat nord-américain de basketball, la NBA.
Les Spurs de San Antonio se sont qualifiés pour la 18e fois de suite pour les playoffs NBA en s'imposant à Orlando 103 à 91. Russell Westbrook a réussi son 10e triple-double de la saison avec 31 points, 11 rebonds et 11 passes lors de la défaite d'Oklahoma City à domicile face à Dallas 135 à 131. Festival de James Harden lors du succès de Houston 115-111 face à Sacramento. Victoire des Clippers de Los Angeles à Portland 126 à 122. Brooklyn vainqueur du derby face à New York 100 à 98. Indiana battu à Boston 87 à 100.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Idrissa Sidoudia et Morgan Guériec en votre compagnie, place au dossier du jour.
La grosse actualité cette semaine, hein, c'est évidemment l'élection de Muhammadu Buhari à la tête du Nigeria. Fair play, le président sortant Goodluck Jonathan a rapidement reconnu sa défaite, dissipant ainsi les craintes de violence post-électorale. Un geste fort pour le renforcement de la démocratie au Nigeria et dans le reste du continent. Par ailleurs, la personne de Muhammadu Buhari suscite de nombreux espoirs dans la région. Au Cameroun, cette victoire est perçue comme une possible solution à la lutte contre les djihadistes nigérians de Boko Haram. De Yaoundé, la correspondance de Jules Loubo.
L'élection de Muhammadu Buhari à la tête de l'État nigérian suscite moult réactions au sein de l'opinion. Nombreux sont les Camerounais qui saluent l'arrivée au pouvoir de ce général à la retraite. Joseph Mbarga et Serge Téné, tous commerçants à Yaoundé.
Je crois qu'il est l'homme de la situation parce que le Nigeria a passé beaucoup d'années dans des désespoirs, dans des pleurs, dans des cris. Et nous voyons en cet homme un homme de charisme, un homme décisif.
Beaucoup de Nigériens ne l'ont voté parce qu'il n'a pas lutté contre ce fléau.
Je suis Haoussa. Il y a aussi les autres Haoussa de l'autre côté du Nigeria, comme le Cameroun. Et moi, je suis très content parce que vraiment, avec l'ancien président, on avait déjà presque perdu l'espoir. Hein.
Pour bon nombre de ces Camerounais, la solution au problème Boko Haram passe par cette alternance au sommet de l'État nigérian. D'autant plus que le nouvel homme fort lui-même aurait subi une attaque de la secte islamiste. Abdoulaye Ado, juriste.
Pour ce qui est de Boko Haram, c'est sûr que M. Buhari va tout faire parce que c'est une priorité, la sécurité au Nigeria également, puisque ça a des répercussions dans d'autres pays qui sont frontaliers avec le Nigeria. Il va s'atteler à ça. Surtout que lui, il y a eu un attentat sur son cortège où lui-même a failli périr et on dit que c'était des éléments de Boko Haram.
Malgré l'âge avancé du nouveau président, les observateurs s'accordent à dire que sa formation militaire fera de lui un bon chef d'État. Et les mouvements de revendication n'auront qu'à bien se tenir. Jean-Paul Toa et Cyprien Olé, tous transporteurs.
En tant que militaire et en tant qu'un ancien président, il peut relever le défi.
Nous croyons que parce qu'il est du métier, qui va vraiment être un pilier que les Nigériens attendent beaucoup.
Là, pour ça, on est sûr. Hein. On est sûr qu'il peut finir avec eux. C'est ce que les Nigériens même connaissent.
L'issue de la présidentielle nigériane semble donc satisfaire la majorité des Camerounais. Surtout qu'elle constitue la première alternance démocratique dans ce pays voisin. Yaoundé, Jules Lobo pour La Voix de l'Amérique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
L'opposition guinéenne a appelé ce jeudi les populations à observer une journée ville morte pour protester contre le calendrier électoral publié par la CENI. Dans la capitale Conakry, cet appel a été très peu suivi. Pour une réaction, Georges Léonard Sagno a contacté dans la région de Washington le docteur Faya Milimuno, leader du Bloc libéral, un parti d'opposition en Guinée. On l'écoute.
Ce n'est pas un échec parce que je crois que les reports que nous suivons du pays, c'est que naturellement, quand on décrète une journée de ville morte dans un pays comme la Guinée où le revenu est très faible, où les gens vivent dans des difficultés les plus monstres qui sont actuellement exacerbées par Ebola, on ne peut pas s'attendre à ce que tout le monde reste à la maison.
Mais déjà, par la description de la circulation dans la ville de Conakry, en banlieue de Conakry, il est clair qu'il y a beaucoup de personnes qui ont observé la journée de ville morte décrétée par l'opposition guinéenne.
Qu'en est-il de l'intérieur du pays?
Cette manifestation décidée par l'opposition, le focus était sur Conakry.
Selon vous, aujourd'hui, où se situe le blocage?
En fait, la crise politique en Guinée ne date pas de la publication par la CENI du calendrier électoral. Il faut dire que depuis que le professeur Alpha Condé est au pouvoir, la Guinée est en crise et la crise va crescendo. Parce que depuis l'installation du professeur Alpha Condé, nous observons un effort de légitimation de la violation du droit, de la violation de la Constitution et des lois de la République. Nous avons un effort de désengagement moral. Eh bien, lorsque vous êtes dans l'opposition et vous n'avez plus d'interlocuteurs, il y a eu un dialogue en 2013, c'était en juillet, devant toute la communauté internationale, parce qu'il y avait un envoyé de Ban Ki-moon à Conakry en la personne de Djinit. Il y avait les facilitateurs nationaux, un de l'opposition, un de la mouvance, ainsi que tous les ambassadeurs des pays du G8. Devant tout cela, il y a eu des engagements qui ont été pris, des accords qui ont été signés, qui ont été reniés tout de suite après. Donc, il y a là un désengagement véritable de la morale au niveau des gouvernants actuels. Donc, lorsqu'il ne peut plus y avoir dialogue dans un pays, bien entendu, la crise sera là.
Pensez-vous que la Guinée a les moyens pour organiser des élections à la fois locales et présidentielles dans un laps de temps très court?
Avant que nous ne soyons en 2015, nous avons eu 2011, nous avons eu 2012, nous avons eu 2013, nous avons eu 2014. Qu'est-ce qu'on a fait durant tout ce temps? Quelle a été la cause du blocus pendant toutes ces années? C'est le président de la République, c'est son gouvernement. Donc, on ne peut pas parler aujourd'hui de manque de temps lorsqu'on a joué pour cela.
C'était le docteur Faya Milumuno au micro de Georges Léonard Sagno.
Et nous partons maintenant au Burkina Faso. Après l'épidémie qu'a connue le pays en 2006, le Faso fait de nouveau face à la grippe aviaire. L'annonce a été faite par le ministre en charge des ressources animales, Jean-Paul Rouamba. De Ouagadougou, notre correspondant Zoumana Wonogo.
Des mortalités importantes de volailles ont été enregistrées courant février-mars 2015 au niveau des élevages traditionnels et modernes dans les provinces du Kadiogo, région du centre, et du Sangié, région du centre-ouest. Les investigations des services vétérinaires ont abouti à une forte suspicion de l'influenza aviaire hautement pathogène ou grippe aviaire. Cette suspicion a été confirmée par un laboratoire de référence de l'Organisation mondiale de la santé animale et de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture. Nous sommes donc en mesure de déclarer la circulation de la souche hautement pathogène H5N1 de l'influenza aviaire au Burkina Faso.
Une telle déclaration faite un 1er avril laisse penser à un canular. Comme beaucoup de Burkinabés, Alban Kini, jeune cadre, nous a dit qu'il a pensé que c'était un poisson d'avril. On écoute.
Lorsque le ministre est passé hier sur les antennes de la RTB pour annoncer la présence de la grippe aviaire au Burkina Faso, d'abord j'ai rigolé, je me suis dit que c'était un poisson d'avril, puisque toute la journée on a été bombardé par de ces informations qui ne sont pas vraies.
Et pourtant, la grippe aviaire est bel et bien présente au Faso. Madame Jocelyne Buntulugu, secrétaire générale du ministère des Ressources animales, lève toute idée de doute.
Malheureusement, ce n'est pas un poisson d'avril. Pour le moment, on a notifié 3 ou 4 foyers, mais on n'est pas sûr qu'on va se limiter à ces foyers. Donc, les investigations des services vétérinaires se poursuivent. Ce qu'il faut noter de très important, c'est qu'il y a un arrêté portant déclaration d'infection. Il y a un certain nombre de messages que nous allons faire passer dans la presse portant information sur l'influenza aviaire, également portant et les mesures de biosécurité à observer en matière de grippe aviaire.
Déjà, le décompte macabre fait ressortir des pertes énormes. Lassina Ouattara, directeur général des services vétérinaires, explique.
Nous avons enregistré 115 000 volailles comprenant des poules pondeuses, des poulets de chair, enfin des poules, des pintades, des canards et des dindons en milieu traditionnel. Dans les 115 000, vous avez et la volaille traditionnelle et des pondeuses essentiellement. Les pertes qui sont actuellement enregistrées tourneraient autour de 4 750 000 à peu près.
Il faut avouer que cette nouvelle était la moins attendue en cette veille de fête pascale où, rien qu'à Ouagadougou, la consommation journalière de volailles tourne autour de 35 000. Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Les organismes d'aide internationaux sont perçus par certains États en Afrique comme des chevaux de Troie pour déstabiliser les pays hôtes sous le couvert d'action sociale. Ce fut le cas récemment avec USAID en RDC, République démocratique du Congo, où cette organisation a été accusée d'accompagner les militants pro-démocratie. Où se situe la vérité dans le travail des organismes d'aide internationale? Jean-Roger Billon a posé la question à Camissa Camara, responsable des programmes du ND, le National Endowment for Democracy, ici à Washington.
On sous-estime très souvent les initiatives qui viennent de la population elle-même. Et ces organisations qui sont sur place et qui secouent le cocotier, entre guillemets, le font d'elles-mêmes. Elles se regroupent, elles discutent, elles trouvent des stratégies et elles décident des problèmes qu'elles veulent résoudre elles-mêmes. Donc souvent, ces institutions internationales arrivent en appui à des initiatives qui sont déjà en place. Donc il faudrait faire attention et ne pas sous-estimer ces initiatives qui sont déjà là et qui se font par des Africains pour des Africains.
Le volet bonne gouvernance de ces organisations débouche souvent sur des incidents fâcheux.
Ça arrive qu'il y ait de mauvaises interprétations sur les intentions des institutions internationales pour avoir travaillé pour plusieurs de ces institutions. Je peux même dire que très souvent, il y a des théories de conspiration qui sont très souvent totalement fausses. Et je pense que cela aussi vient du fait que peut-être que ces institutions ne font pas un bon travail de communication pour vraiment rassurer les populations et les informer sur ce qu'elles font réellement sur le terrain. Donc, bien évidemment, on se dit, voilà, les Américains sont arrivés, ils soutiennent le régime en place. Ah, les Américains, on les a vus avec telle personne et voici un incident qui s'est déroulé tout de suite après. Mais, encore une fois, il ne faut pas les sous-estimer. Il y a des initiatives sur le terrain qui sont là et qui, en fait, sont appuyées financièrement et simplement financièrement par les institutions internationales. Et ça s'arrête là.
Alors, prenons la chose de l'autre côté du guichet. Et si une institution africaine venait à faire le même travail, par exemple, dans un pays développé comme les États-Unis, que penseraient les autorités de ces pays développés?
Premièrement, le contexte est totalement différent. Les contextes sont totalement différents. Aux États-Unis, les choses sont claires. Après le deuxième mandat du président, le président s'en va. Donc j'ai l'impression que les pressions auxquelles le gouvernement américain font face viennent de l'intérieur. Lorsqu'on est dans des pays africains où les présidents ne veulent pas quitter le pouvoir et ont peur de leur propre société civile, il est très facile de trouver, on appelle ça en anglais des troublemakers, des personnes qui viendraient de l'extérieur pour tout chambouler. Mais la plupart du temps, ça arrive de l'intérieur et je pense que l'exemple récent du Burkina l'illustre très bien.
Camissa Camara, responsable des programmes du NED, le National Endowment for Democracy.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque jeudi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, African Music. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA. Ne ratez pas votre émission interactive. Participez en direct. RM Show vous dit Peace Africa.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, je crois, Morgane, que le grand développement de la journée, c'est les développements en Suisse, à Lausanne, où la chef de la diplomatie de l'Union européenne, Federica Mogherini, et son homologue, ou je dirais le ministre des Affaires étrangères de l'Iran, Zawad Zarif, ont tenu une conférence de presse pour annoncer un accord préliminaire sur le nucléaire iranien. Alors, Madame Mogherini a parlé d'étapes décisives, d'un accord sur des paramètres clés qui vont permettre de jeter les bases pour un plan d'action global dans les mois à venir. Elle a parlé spécifiquement d'une nouvelle date butoir, si je puis dire, le 13 juin. Et bien sûr, nous reviendrons sur ce développement dans nos prochaines éditions.
Voilà, dans le reste de l'actualité, on peut aussi signaler le Kenya, prise d'otage des Shababs somaliens dans l'université de Garissa. Au moins 70 personnes, essentiellement des étudiants, ont été tuées. À la mise en onde ce soir, Michel Joseph, présentation Idrissa Seydoudia et Morgane Guiriec.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voafrique.com.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bangui sur 101.7 FM. Sabari FM, Bamako. Golf FM, Cotonou. Milo FM 99.5, Cancan Niger. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.